Voilà. Oui, une sorte de synthèse, un exercice difficile dans lequel j'aimerais glisser peut-être aussi peut-être quelques questions pour poil à gratter, en quelque sorte, pour que nous ne sortions pas simplement en ayant des choses peut-être qui enrichissent notre réflexion, mais qu'elles puissent aussi être un peu comme ça des épines qui puissent stimuler des aiguillons pour notre réflexion. Peut-être un élément, je trouve intéressant combien les expériences dont il était question cet après-midi faisaient écho peut-être un peu à la perspective que j'avais proposée ce matin sur la manière d'aborder la question du péché dans l'écriture, c'est que cette démarche vise une forme de lucidité, un déchiffrage du péché dans la perspective du combat spirituel auquel nous sommes appelés, et de la confession des péchés, bien sûr, d'abord, et ensuite du combat auquel nous sommes appelés. Et je souligne juste deux choses. C'est d'abord que le péché, évidemment, nous concerne, nous aussi, chrétiens. Nous ne sommes pas exonérés ou nous ne sommes pas extraits de la condition pécheresse, bien que la régénération puisse y changer quelque chose. Mais c'est important de ne pas céder, on peut, en décrivant le mal que l'on voit, qui nous frappe, sombrer dans une indignation. C'est Bernanos qui dit qu'il se méfie de nos indignations, que l'indignation n'a jamais aidé personne, mais par contre a pu faire de mal à beaucoup de monde. Et qu'il faut y prendre garde, parce que ce qu'on gagne dans l'indignation, eh bien on le perd en humanité ou en solidarité avec ceux chez qui peut-être nous discernons, oui, les groupes ou les personnes chez qui nous discernons le mal. Donc, je crois que ça nous invite, le péché en nous, à nous méfier de nos propres indignations. Il y a des péchés qui nous gênent, il y a le mal, un mal qui nous gêne, d'autres qui nous gênent moins, et il y a là-dessus un effort de lucidité à faire. Et la deuxième chose, c'est que l'écriture elle-même, j'avais dit, l'écriture, par son inspiration, par l'esprit, et l'illumination que l'esprit nous donne, nous aide dans cet effort de lucidité, mais elle ne nous met pas non plus dans une situation au-dessus. Elle ne nous donne pas le point de vue de Dieu dans ce sens-là, comme si nous étions à la place de Dieu à regarder le monde. Elle corrige notre point de vue. Elle montre parfois ce que Dieu voudrait que soit notre point de vue. Mais on ne prend pas l'écriture comme disons, quelque chose qui nous permettrait effectivement de nous élever au-dessus du reste de la condition humaine. On la lit avec humilité et étant conscient qu'elle s'adresse à nous. Alors peut-être sur les éléments justement qui ont fait écho dans tout ce qu'on a discuté et entendu cet après-midi, il y a peut-être deux points sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est finalement le constat d'un écart croissant, ou perçu en tout cas comme croissant, entre ce que la foi chrétienne exige de penser sur le mal et le péché, et ce que le contexte ambiant, une certaine compréhension de la laïcité, de la tolérance et de l'évolution des mœurs permet. Et que là, les chrétiens sont confrontés sur leur lieu de travail à des hiatus qui ont ce caractère souvent intimidant, où il devient difficile d'oser parler du mal, d'oser évoquer des choses qui pourraient être trop vite disons, assimilé à du prosélytisme. Autrement dit, on fait quand même face à... Alors, il a été question d'une tolérance, ou d'une tolérance intolérante, d'un laxisme intolérant. En tout cas, il me semble qu'il y a une super morale contemporaine qui a tendance à être assez intimidante et qui peut embarrasser le chrétien dans l'expérience commune, dans son expérience de vie face au travail. On l'a vu dans le Francis Mou, dans le métier de psychologue, on en parlait dans le domaine juridique. Voilà, et il y a, me semble-t-il, là la trace d'un besoin de réfléchir comment pouvoir parler du mal, comment pouvoir exprimer peut-être ce qui fait la particularité de la foi chrétienne et la manière dont elle peut contribuer aussi à la discussion commune. Il me semble que c'est parfois étonnant de voir des non-croyants, on parlait de quelques philosophes, qui osent parler de Dieu de manière assez libre, alors que les chrétiens n'osent plus. Hein. Voilà, un livre publié il n'y a pas très longtemps, François Julien, Ressources du christianisme. Bah oui, l'Europe, ses racines, c'est le christianisme, et l'humanisme athée aussi, mais le christianisme. Et il faut pouvoir en parler, et là, il y a peut-être quelque chose dont il faut s'emparer, disons, oser se réemparer, et pour montrer ce que David appelait tout à l'heure, peut-être la structure de plausibilité du christianisme. C'est-à-dire le fait que c'est pas simplement une théorie intellectuellement crédible à laquelle on peut adhérer intellectuellement, mais que c'est une structure de vie qui implique des dimensions affectives, volitives, intellectuelles, et qui est vivable. Et pour cela, il faut une communauté de chrétiens, une communauté de chrétiens qui soit visible et qui puisse dire, rendre visible, articuler la réalité de la foi chrétienne, en particulier, dans la manière d'assumer la réalité du mal qui habite le monde, la manière de le vivre dans le pardon, dans une forme de lucidité, de qu'appelle proprement la confession des péchés, qui appelle une forme de lucidité, de regard honnête sur ce qu'on fait. Et tout cela renvoie, il me semble, à cette dimension, cette articulation difficile dont on a parlé sur la question du mal au niveau individuel, du péché au niveau individuel, et le mal lorsqu'il s'incarne dans des structures collectives qui deviennent qui prennent une forme quasi personnelle, qui sont quand même associées elles-mêmes à des actes, ou des dispositions, ou des manifestations du péché, que ce soit au niveau des familles, des États, ou d'autres choses encore. Donc il y a quelque chose à faire, semble-t-il, aussi pour réussir à mieux penser dans un contexte contemporain, avec les outils conceptuels appropriés, la communauté dans son articulation avec l'individu, mais aussi dans sa réalité unitaire, et peut-être une dimension qui se rapprocherait d'une dimension personnelle. Peut-être le deuxième point que je soulignerais, là peut-être plus sur les partages, les échanges qui ont eu lieu à propos des disciplines, des diverses disciplines, la sociologie, la littérature, la philosophie, c'est peut-être l'importance ou l'intérêt de pouvoir discerner dans les différents domaines quelque chose comme un fond commun, un fond d'entente avec nos contemporains non-croyants. Et que dans ce fond commun, faudrait peut-être, au nom même de cette surmorale contemporaine, au nom de l'authenticité et de la vérité, pouvoir nous emmener tels que nous sommes, y compris avec notre foi. Lydia évoquait cette idée tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a quelque chose effectivement d'intéressant ici, dans cette idée de ce fond commun qu'implique la discussion, qu'implique le dialogue dans une société contemporaine qui se veut ouverte. Mais que ce fonds d'entente était aussi un lieu privilégié, justement, de communication. Hein. Quand, dans littérature, on aborde C.S. Lewis ou des auteurs britanniques du 18e, 19e, eh bien, naturellement, des questions portant sur la foi chrétienne doivent être abordées. Ça fait partie de ce fonds commun. Et l'art, par exemple, la littérature, sont des lieux aussi où peuvent émerger quelque chose qui appartient à ce fonds commun et qui permet aussi de commencer, en tout cas, à essayer de communiquer des éléments qui appartiennent au récit chrétien, au grand récit de l'Évangile. Mais il me semble qu'il y a un troisième élément que ce fonds commun doit nous permettre de faire apparaître, et peut-être on l'aime peut-être moins, c'est la manière dont, la façon dont le mal est traité ou pas traité dans les différentes disciplines, dans les différents métiers, peut-être nous interroge, nous, avec nos propres présupposés, peut-être interroge nos propres impensés. Il me semble que, c'est Joseph qui disait, le mal n'existe pas en sociologie, il n'y a que des mots qui sont décrits, analysés. Eh bien, il me semble que la sociologie, quand même, par les outils qu'elle a permis de développer, ou la psychologie, en débusquant certains mots dans certaines structures, peut nous aider aussi, nous chrétiens, à ne pas nous illusionner à partir d'un discours bibliquement construit ou au vocabulaire biblique sur la réalité de ce que nous faisons. Sur la réalité de la manière dont une morale chrétienne ou une certaine vision de la piété peut dissimuler de véritables dysfonctionnements. Pardon. Et il me semble que du coup, il faut aussi regarder, je pense à l'idée de grâce commune, là, ce monde-là comme une ressource pour nous, pour éprouver et pour grandir en lucidité, toujours éclairé par l'écriture qui nous a été donnée, mais en tout cas pour arriver à plus de lucidité sur nous-mêmes. Je crois que le monde est utile à l'Église. Et il me semble que c'est important, sur cette question du mal, de retourner aussi la question en disant « Mais que nous dit le monde sur ce que peut-être nous ne voyons pas ou ne voyons plus dans peut-être notre façon de voir le monde dans les mots que nous mettons de manière peut-être un peu automatique sur le mal autour de nous. Et voilà, j'allais le laisser même en presque en forme de un peu de provocation. Est-ce qu'à un moment, justement, parlait de psychologie tout à l'heure, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu nécessité ou il n'y a pas nécessité de suspendre notre propre discours chrétien et biblique sur le mal, tant il est justement devenu habituel, peut-être est-il domestiqué dans des structures dysfonctionnelles. Nous recevons la parole de Dieu, l'enseignement qui nous est donné, dans des structures personnelles qui sont elles-mêmes cabossées, qui sont elles-mêmes parfois déviantes dans certains aspects. Et il faut parfois, ces déviations, je l'ai constaté comme pasteur, sont parfois, et ensuite sur moi-même, parce que on le voit chez les autres, et qu'on découvre en miroir, c'est-à-dire qu'un discours très chrétien sur le bien et le mal peut aisément dissimuler des choses bien plus basiques, des dysfonctionnements, qu'une suspension, entre guillemets, de l'éthique, une suspension en tout cas de la question du bien et du mal, s'avère parfois nécessaire, au moins temporairement, pour retrouver un peu ce qui, dans la structure, dysfonctionne, et qui nous permet ensuite de revenir à la question du mal, tel que le décrit l'Écriture, pour revisiter notre vie, notre vie individuelle, évidemment, peut-être aussi notre vie familiale, voire notre vie d'église. Autrement dit, c'est bien, Dieu a bien un discours, quelque chose à nous dire et à nous apprendre sur le mal, et il faut l'écouter avec sérieux, il faut faire preuve de lucidité, mais il ne faut pas confondre notre discours sur le mal et ce que Dieu dit. Et que là, à certains moments, même les incroyants, Dieu peut utiliser, même les incroyants, dans toutes les limites de ce qu'ils apportent, pour nous amener à une lucidité encore plus grande, c'est que justement, il ne suffit pas d'avoir l'Écriture, le Saint-Esprit en nous, pour avoir peut-être une vision et surtout une expérience pertinente et, juste de la manière de traiter le mal dans nos vies. Voilà, donc je vous laisse un peu sur cette provocation-là et je rends la parole à David. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps.
Ouais, il me reste 2 minutes.
16 minutes 14.
Hein ?
16 minutes 14. Formidable, j'ai tenu.
Très bien. Bon, on n'a pas énormément de temps, c'est vrai. Mais j'avais dit ce matin qu'un des buts, Yo l'a répété, dans le réseau, c'est de diffuser une bonne réflexion chrétienne. Je pense qu'il y a d'autres personnes en France que nous qui sommes dans les sciences humaines. faire une sorte de synthèse de tout ça.
Voilà, ça.